Alors, 2 Pierre 1, à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la seconde lecture, le psaume 19 en entier. Au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ces fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et puis la troisième lecture, psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Il est écrit dans la Bible, dans Jean 14, 26, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Jésus a annoncé ceci, et le Saint-Esprit l'a fait en conduisant ses apôtres qui ont écrit ce qu'il leur a rappelé. Et que nous avons aujourd'hui cette vérité dans notre langue. Il est écrit, et c'est l'apôtre Pierre, guidé par le Saint-Esprit, promis, qui dit dans 2 Pierre 1, 20-21, vous l'avez sous les yeux, « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible est un message de Dieu. C'est un témoignage de ce que Dieu a dit et fait. Il est écrit encore dans 1 Corinthiens 2, les versets 12 à 14. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En fait, ce texte nous indique que nous sommes dépendants de l'œuvre de Dieu dans nos vies pour que nous puissions comprendre que ce que dit la Bible n'est pas de la folie. Et ma prière, c'est que pour chacun ici présent, nous puissions être conduits par l'Esprit de Dieu pour comprendre l'enseignement de Dieu dans sa parole. 2017 est une année particulière de souvenirs. Un souvenir vieux de 500 ans qui a encore de l'avenir. Il s'agit de la Réforme, un mouvement duquel, parmi d'autres bienfaits, cinq vérités ont été mises en avant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez donner une information que le monde entier doit connaître et recevoir, vous allez le faire en anglais. Ben oui, c'est la langue internationale de notre époque. Il y a 500 ans, ce n'était pas l'anglais. C'était le latin. Voilà pourquoi, en fait, ces cinq vérités sont souvent dites en latin. La première, soli deo gloria. À Dieu seul la gloire. Une seconde, sola scriptura. L'écriture seule, de laquelle nous parlerons ce matin. Solus Christus. Par le Christ seul. Sola gratia. Par la grâce seule, sola fide, par la foi seule. Alors vous trouverez ces termes aussi sur la main, au dos des documents que vous avez pu recevoir. Nous allons prendre le temps ce matin à répondre à quelques questions. Alors tout d'abord, j'aimerais répondre à une première question, c'est pourquoi parler de la Réforme ? Voilà, nous allons répondre à cette question. Pourquoi parler de la Réforme ? Ensuite, pourquoi sola scriptura? Pourquoi l'écriture seule? Qu'est-ce que cela veut dire? Et enfin, nous réfléchirons à comment pratiquer le sola scriptura. C'est donc nos trois points que nous allons voir ensemble ce matin. Pourquoi parler de la Réforme? Pourquoi l'écriture seule? Et comment pratiquer l'écriture seule? Pourquoi parler de la Réforme? Eh bien, tout simplement parce que c'est un point de repère, un pointeur qui nous indique le centre de l'histoire de l'humanité, qui se situe 1500 ans avant la Réforme. Alors, on ne peut pas donner de date exacte à la Réforme, parce que c'est une œuvre de Dieu, un puissant réveil, un retour aux sources qui s'est effectué sur des années. Mais, en 2017, nous entrons dans la 500e année, après l'affichage des 95 thèses de Luther, le 31 octobre 1517, à Wittenberg, qui fut un événement déclencheur et qui a marqué les esprits de ce temps que nous appelons la Réforme. Voilà pourquoi c'est 500 ans, en fait. La Réforme est un souvenir, un rappel, une remise en mémoire, un réveil qui dirige vers les fondements, les bases solides d'une humanité réconciliée avec Dieu. La Réforme est un souvenir qui a de l'avenir. Pourquoi ? Parce que le fondement qui est remis en valeur à la Réforme n'a pas changé. Nous pouvons continuer à nous appuyer sur ce même fondement pour les années à venir. Parce que si un fondement est parfait et sans défaut, ben il n'a pas besoin d'être changé. Il n'a pas besoin d'être modifié. Si il est modifié pour l'améliorer, c'est qu'il n'était pas parfait. Comprenez ? En fait, vous avez déjà fait des interrogations de mathématiques. Ça vous rappelle peut-être quelque chose il y a bien longtemps. Pour certains, pour d'autres, ça peut être la semaine passée. Si vous avez fait une interrogation de mathématiques, que vous obtenez la note maximale parce que vous avez fait tout juste, il n'est pas possible d'améliorer ni votre résultat, ni vos réponses. Vous êtes d'accord? Tout était juste. Mais si quelqu'un changeait les réponses, par exemple, 2 plus 2 ne vaut plus 4, mais 5. Ou 3 fois 6 ne vaut plus, bon, faut réfléchir, hein, 18, mais, je sais pas, 84. Enfin, on peut continuer comme ça, ainsi de suite. Eh bien, le fondement est totalement changé. Les chiffres n'ont plus la même valeur, les mots n'ont plus le même sens. Et votre interro de maths, en fait, n'a juste plus de valeur. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé dans ces 1500 ans avant la Réforme, et qui se passe depuis 500 ans encore, on change les fondements. Vous savez, la Réforme n'a rien apporté de nouveau. Elle a cherché à revenir aux réponses justes de l'interrogmate que certains avaient modifié. Alors pour ceux qui ont le document et qui aimeraient le compléter, maintenant il y a une phrase à compléter dans ce document. Vous verrez que je les répète deux fois, hein, comme ça vous savez toujours qu'il y a quelque chose à compléter si jamais. Voici un petit condensé qui dit ceci. La réforme a permis de revenir au fondement posé, de remettre la vérité en valeur, de pointer vers le centre de l'histoire. Et ce centre de l'histoire, de l'humanité, c'est la venue de Dieu Fils Jésus-Christ sur la terre et toutes ses conséquences. Donc la réforme a permis de revenir au fondement posé, de remettre la vérité en valeur, de pointer vers le centre de l'histoire, et ce centre de l'histoire, c'est la venue de Dieu le Fils, Jésus-Christ, sur terre et toutes ses conséquences. Rien que ça. Pointer vers le centre de l'histoire de l'humanité. Le centre de l'histoire de l'humanité, c'est la venue de Jésus-Christ sur terre. Si jamais, ben chaque fois que vous écrivez une date, vous le rappelle. Il y a des dates avant Jésus-Christ et des dates après Jésus-Christ. Nous sommes en 2017, après Jésus-Christ. Donc avant le centre de l'histoire de l'humanité, après le centre de l'histoire de l'humanité. Et si nous nous appelons Église réformée baptiste, c'est parce que nous désirons, encore aujourd'hui, avec ce terme réformé, revenir et nous appuyer sur le fondement donné au centre de l'histoire de l'humanité par Jésus-Christ, comme le message de base de la réforme. Car il est écrit dans Éphésiens 2:20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » On a vu ce verset avec les jeunes dernièrement, où on a pu comprendre que quand il a dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres », ça signifie le Nouveau Testament, et des prophètes, ça signifie l'Ancien Testament. Hein? Donc c'est un texte qui nous montre qu'on est édifié sur le fondement de la parole de Dieu. Et l'enjeu principal de tous les enseignements remis en valeur lors de la réforme concerne le salut et tout ce qui en découle. Il est donc important que nous comprenions bien ce que signifie le salut. Alors si on veut le dire de manière très... lapidaire, comme on dirait, très courte. On pourrait dire le salut, c'est le fait d'échapper à la mort éternelle. C'est un peu court, vous me direz. Bon, là, qu'est-ce que c'est que la mort éternelle aussi, hein? La mort éternelle, c'est pas on meurt puis c'est fini. C'est on meurt tout le temps. C'est ça, si vous voulez, la mort éternelle. Il y a la vie éternelle que Dieu donne, c'est on vit tout le temps. Et puis il y a la mort éternelle, c'est on meurt tout le temps. C'est pas simplement ça s'arrête. C'est une situation, ça représente la souffrance ultime, les conséquences d'une faute. Donc le salut, c'est le fait d'être délivré d'un état naturel du péché et de ses conséquences dramatiques. Le salut, c'est le fait d'être délivré d'un état naturel du péché et de ses conséquences dramatiques. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tout ce qui s'y trouvait était très bon. Il n'y avait rien de mauvais. Mais l'homme a désobéi à Dieu et a ainsi entraîné toute l'humanité dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pour comprendre cela, on pourrait dire que le premier homme a contracté une dette colossale que nous sommes tenus encore de rembourser en tant qu'héritier. Et c'est un héritage que nous ne pouvons pas refuser, comme l'héritage de l'ADN que nous recevons sans que nous puissions nous y opposer. Une dette colossale que nous sommes tenus en tant qu'héritiers de rembourser également. Et certains diront, mais c'est pas juste, j'en veux à Dieu qui demande le remboursement de cette dette. Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire pour nous rendre compte des conséquences de certains actes et qu'il n'y a pas une question d'injustice. Imaginez qu'il existe un animal qui pond des œufs, qu'il est possible de manger et qui guérit de toute maladie. Ça va, hein? Un animal qui pond des œufs, hein? On peut les manger et ça guérit de toute maladie, c'est bon? Bon. Il n'y en a qu'un. Cet animal est donné à votre grand-père. Malheureusement, il n'a pas écouté Dieu qui lui a dit comment il fallait le nourrir. Votre grand-père a donné à cet animal extraordinaire ses propres œufs à manger. Les œufs, on n'est jamais malade, vous comprenez un petit peu la logique hein, qu'il a pu avoir. Mais Dieu lui avait clairement dit qu'il ne fallait jamais donner ses œufs à cet animal, sinon il mourrait. Le grand-père n'a pas cru Dieu et l'animal est mort. Il n'existe plus. Est-ce que vous pouvez en vouloir à Dieu ? Vous savez, nos actes ont des conséquences sur les autres. Et la conséquence du péché de nos premiers parents, c'est qu'ils ont amené la mort. Et l'homme s'est précipité lui-même dans la mort physique et spirituelle. Dieu ne lui a pas conduit, au contraire, il l'a averti. Mais heureusement que Dieu n'a pas dit « tant pis » à l'homme. Il aurait pu dire « tant pis, m'a désobéi ». Non, Dieu n'a pas dit « tant pis » à l'homme qu'il aime et qui s'est détourné de lui. Dieu a préparé un moyen pour le sortir de cette mort spirituelle et lui donner une nouvelle vie avec un nouveau corps. Car lorsque le corps physique sera détruit, Dieu donnera un nouveau corps. Et ce salut, c'est le centre des cinq vérités remises en valeur par la réforme. Ce salut, c'est le centre des cinq vérités remises en valeur de la loi de la réforme. La sola scriptura, donc l'écriture seule, indique la seule référence fiable, le seul fondement, la seule autorité en matière d'explication du salut. C'est la Bible. Comprenez le lien avec le salut. Hein, la sola scriptura indique que la seule référence fiable, le seul fondement, la seule autorité en matière d'explication du salut, c'est l'Écriture, c'est la Bible. Le sola fide, donc la foi seule, indique le moyen pour saisir le salut. C'est par la foi seule que nous saisissons le salut. Les œuvres n'y contribuent pas, elles en découlent. Le sola fide, la foi seule, indique le moyen pour saisir le salut. C'est par la foi seule que nous saisissons le salut. Les œuvres n'y contribuent pas, elles en découlent. Le troisième, sola gratia, par la grâce seule, indique le moyen utilisé par Dieu pour accorder le salut. C'est la grâce seule. C'est ça, hein, sola gratia, c'est le moyen que Dieu a utilisé. Le seul moyen qu'il utilise pour donner le salut, c'est la grâce. Hein, sola gratia indique le moyen utilisé par Dieu pour accorder le salut, c'est par la grâce seule. Quatrième, le solus Christus, Solus Christus indique l'auteur et le seul médiateur pour le salut, Jésus-Christ devenu aussi homme. Solus Christus indique l'auteur, le seul médiateur pour le salut, Jésus-Christ devenu homme. Et enfin, où nous aurions pu le prendre en premier évidemment, la Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, indique le but et la raison du salut. Le but et la raison du salut, c'est pour la gloire de Dieu. Tout est centré sur Dieu. Si quelqu'un cherche le centre de l'univers, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas biblique. Certains, malheureusement, dans le passé, ont un peu pensé que c'était la terre, le centre du monde, tout tournait autour. Hein. C'est une mauvaise compréhension, ce n'est pas biblique. C'est quoi le centre de l'univers ? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc le Soli Deo Gloria indique le but et la raison du salut. C'est pour la gloire de Dieu. Tout est centré sur Dieu. Hein? Si quelqu'un cherche un centre de l'univers, ce n'est pas la terre, ni le soleil, c'est Dieu. Voilà. C'est un petit condensé, là, hein? Mais qui nous permettait de voir que tous ces cinq vérités remises en lumière lors de la réforme, en fait, indiquent, donnent des indications sur le salut. Et l'invitation à saisir le salut reste actuelle. Vous connaissez sûrement le message qui sort de Jésus, les premières paroles de Jésus dans Marc, c'est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, et vous serez sauvés. » Alors, toutes ces vérités se trouvent dans la Bible. Et nous pouvons dire donc que Dieu a utilisé les Écritures pour déclencher la réforme. Le mot d'ordre de la réforme est « Retour aux Écritures ». Retour aux Écritures. Bon, c'est vrai qu'il y avait du mécontentement face au clergé, qui dans sa grande majorité recherchait le pourvoir, la richesse, et pas le bien du peuple. Mais cela n'aurait pas été suffisant pour provoquer la réforme. Et comme le dit un historien, c'est la Bible qui apparaît comme la cause profonde de la réforme. Une réforme préparée par des précurseurs comme Waldo, Wycliffe ou Jean Hus, hein, et aussi par l'invention en fait de l'imprimerie en 1450 qui a permis la diffusion de la Bible en langue courante. Voilà pourquoi nous commençons en fait ces cinq vérités par le sola scriptura, l'écriture seule. Nous avons maintenant répondu à la question « Pourquoi parler de la réforme ?» C'est notre première question. Et j'espère que nous retiendrons deux choses. L'une, c'est parce que c'est un point de repère qui pointe vers le centre de l'histoire de l'humanité, qui est l'avenue de Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est que la réforme est un tremplin pour revenir au fondement du salut. Voilà pourquoi nous parlons de la réforme. Prenons maintenant quelques instants pour réfléchir à cette question. Pourquoi l'écriture seule? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais vous en poser une autre. Quelle est votre référence dans la vie lorsque vous cherchez une réponse? Ah mais oui, je sais. Internet! Évidemment! Évidemment! Hein? Il suffit d'écrire votre question dans un moteur de recherche et vous allez recevoir une réponse. Enfin, une. Beaucoup de réponses. Hein? Ou bien vous allez voir dans Wikipédia. Là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui n'ont pas encore l'habitude d'Internet ou qui se rappellent de comment on arrivait à vivre sans cet outil, eh bien, il y avait des encyclopédies. Vous vous souvenez des encyclopédies? Où il y avait la réponse à un tas de questions que nous ne nous posions même pas. Mais avant... ou comme maintenant, où cherchez-vous pour connaître la vérité sur le bien et le mal? Sur votre destinée, d'où vous venez, pourquoi vous existez? Vous pouvez taper sur Internet, hein, évidemment, sur un moteur de recherche. Martin Luther a dit cette célèbre phrase qui va nous guider, qui dit « Ma conscience est liée par... » Non, pas par Internet. « Ma conscience est liée par la parole de Dieu. » Et vous, votre conscience, à quoi est-elle liée? À la pensée séculière changeante ou à un fondement stable et millénaire? Pourquoi la Bible serait-elle la seule règle de vie valable? Pourquoi est-ce que c'est uniquement dans ce livre que l'on trouve la vérité parfaite? Pourquoi? La réponse, en fait, est simple. Bon, les conséquences sont grandioses, sont énormes. Mais la réponse est simple. Pourquoi est-ce que la Bible serait la seule règle de vie valable où nous trouvons la vérité? C'est parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi sola scriptura? Parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi sola scriptura? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est parfait, c'est la vérité même. Il n'y a aucun mal en lui. Pas une trace d'erreur. Ce sont les caractéristiques du vrai Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous trouvons régulièrement dans la Bible l'expression « Ainsi parle l'Éternel » qui nous indique que ce sont les paroles mêmes de Dieu. Des centaines de prophéties ont été annoncées à l'avance et se sont réalisées. Parce que celui qui est l'auteur, qui inspire ces écrits, est le Dieu de l'histoire. Et il y a trop d'exemples pour que ce soit par hasard. D'ailleurs, en passant, il n'y a aucun autre écrit qui a cette caractéristique. Des centaines de prophéties qui se sont réalisées. Aucun. Intéressant aussi de voir, mais que ce n'est pas un homme qui a écrit cette Bible. C'est 40 auteurs différents. 40 auteurs différents, issus de milieux de cultures multiples sur une période de 1500 ans, avec un seul message cohérent et sans faille. C'est Dieu qui en est l'auteur. Si c'était un seul homme, on pourrait dire qu'il voulait faire passer ses propres idées. C'est un peu le gourou, si vous voulez. Hein, je mets mes idées, puis tout le monde doit les suivre. Là, on n'est pas face à quelqu'un qui a mis ses idées. Il y a une quarantaine d'auteurs différents. En fait, l'auteur, c'est Dieu. On sait bien, vous avez le texte dans Pierre qui dit que c'est inspiré par l'Esprit Saint. Donc, celui qui veut faire passer ses idées avec cette parole, c'est Dieu, c'est sa parole. Un livre qui est préservé malgré le fait que beaucoup ont voulu et veulent encore le faire disparaître. Souvent, on a voulu faire disparaître la Bible. soit de façon physique ou soit au niveau des idées. Hein. Certains, comme Voltaire, ont prédit que la Bible disparaîtrait rapidement, car l'homme éclairé, un siècle des Lumières, arrêterait de la lire. C'est ce qu'il a dit. Moi, j'aime l'humour de Dieu, parce que 50 ans après la mort de Voltaire, sa propre maison et sa propre presse imprimée étaient utilisées pour produire des Bibles. On n'arrête pas la parole de Dieu. On n'arrête pas la parole de Dieu. On pourrait continuer, c'est le livre le plus vendu. Le best-seller, si vous, on le voit rarement dans les tops. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement au-dessus des autres qu'on ne le mettra pas. C'est le livre le plus vendu au monde, le plus traduit au monde. C'est un livre dont l'archéologie ne fait que confirmer ce qu'elle dit. Ah, souvent, ah non, non, c'est faux ce que la Bible dit. Nouvelle découverte. Ah ouais, c'était vrai ce qu'elle disait. Puis on vient dire, ah non, c'est faux. Nouvelle découverte. Ah non, c'était vrai. Par contre, quand il y a nouvelle découverte, on ne le dit pas trop, en fait. On le disait avant. Vous avez l'histoire avec Ninive, avec les Hittites, enfin, toutes sortes de choses où on disait, ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça. T'as quoi une découverte? Ah ouais, ah ben ouais, si ça existait. Il est écrit dans 2 Timothée 3, 16, 17, sur l'utilité de la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute œuvre bonne. La Bible, sola scriptura, parce que c'est la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la parole. Et les réformateurs, pour contrer ceux qui voulaient leur imposer leurs erreurs, répondaient par... Alors, je vais vous aider. Jésus, il répondait comment quand Satan l'a tenté dans le désert ? Il est écrit, exactement. Les réformateurs répondaient par « il est écrit ». Pourquoi ? Parce que c'est le fondement. Parce qu'on a ici tous les éléments dont on a besoin. Et comme nous l'avons vu précédemment, la réforme n'amène pas quelque chose de nouveau. Comme je viens de vous le dire, pour vous aider à comprendre cela, Jésus lui-même l'a utilisé de façon claire. Il est écrit. Vous le trouvez ça dans Matthieu 4, hein, les tentations de Jésus-Christ par le diable. Chaque fois qu'il répond, il est écrit. Un mensonge, il est écrit. Enfin, une tentation, un mensonge, il est écrit. Donc ça, c'est un élément vraiment fondamental. Pourquoi l'écriture seule ? Pourquoi sola scriptura ? Parce que c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous aider, nous aider à nous rappeler des caractéristiques de cette Bible. Nous allons faire un petit scan de la compréhension de la Bible et chaque lettre du mot scan vous donne une caractéristique de la Bible pour nous aider à comprendre le sola scriptura. Hein? Si jamais, afin de vous imprégner de ces principes, n'hésitez pas à lire le livre « Croire Dieu sur parole » de Kevin DeYoung qui est excellent. Mais prenons ce scan. S-C-A-N. S pour suffisante, C pour clair, A pour autorité, N pour nécessaire. Alors, S pour suffisante. La Bible est complète. Rien n'y manque, rien n'est en trop, elle est suffisante. Le dernier livre de la Bible le dit bien, en menaçant même celui qui oserait ajouter ou retrancher quelque chose à ce dernier livre. Jean était le dernier qui a écrit, il le savait, le dernier qui a écrit un livre donc inspiré de la parole de Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 22, 18-19. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Nous ne pouvons pas accepter des ajouts doctrinaux tels que l'infaillibilité papale, le purgatoire, l'Immaculée Conception, la vénération de Marie, etc., hein, puisque ça, c'était les éléments dont les réformateurs ont combattu. Hein, parce que non seulement ces doctrines ne sont pas dans la Bible, mais surtout elles sont en contradiction avec les Écritures. Et encore aujourd'hui, nous avons à apporter cette vérité. Nous disons donc « sola scriptura, écriture seule » parce qu'elle est suffisante. Pas besoin de révélation supplémentaire. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous disons donc « sola scriptura, l'écriture seule » parce qu'elle est suffisante. Pas besoin de révélation supplémentaire. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Et voici ce que dit la Confession de foi de 1689 qui exprime ce que nous croyons. « L'écriture sainte est la seule règle suffisante » certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Sola Scriptura, parce qu'elle est suffisante, complète. On va continuer notre scan. Hein. Scan, premier, c'était suffisant. Ensuite, deuxième, clair. Clair. La Bible est claire. Il est possible de comprendre ce qui est nécessaire. Hein? Là, je vais simplement vous lire aussi une partie de la confession de foi que je trouve intéressante sur ce sujet-là. Voici ce qu'elle dit. Dans l'Écriture, tout n'est pas également évident, ni également clair pour tous. Cependant, tout ce qu'il faut connaître, croire et observer au vu du salut est si clairement exprimé et dévoilé dans tel ou tel passage de l'Écriture que non seulement l'érudit, mais même l'ignorant peut arriver à une compréhension suffisante pour l'usage des moyens ordinaires. La Bible, en fait, est claire. J'aime dire souvent hein, que la Bible est simple et profonde. Alors, des fois, c'est vrai, on va dans les profondeurs. C'est pas toujours là, on se perd un peu parfois dans ces profondeurs. Mais elle est simple. Elle est claire, en fait. Et sans mépriser tout ce que les commentateurs qui nous ont précédés ont écrit, qui peut s'avérer utile pour des passages difficiles, on en parlera tout à l'heure, nous disons sola scriptura, l'écriture seule est assez claire pour le salut et la vie chrétienne. L'écriture seule est suffisante, est assez claire, pardon, pour le salut et la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin d'un magistère officiel, autre que le Saint-Esprit, qui nous explique le message de la Bible. La Bible est claire. Scan, suffisante, claire, et puis nous arrivons donc à autorité. La Bible étant la parole de Dieu, eh bien rien ne peut lui être mis au-dessus ou même au même niveau si c'est la parole de Dieu. Et c'est un grand enjeu lors de la réforme concernant la tradition. L'Église dominante disait « la tradition est sur un pied d'égalité avec la Bible ». Alors que les réformateurs disaient, la révélation écrite de Dieu, qui est la Bible, est l'autorité suprême à laquelle la tradition doit être soumise. Il n'y a pas de même niveau. Mais la réforme n'est pas une nouveauté. Jésus, en fait, avait repris les pharisiens pour le même problème. Il est écrit dans Matthieu 15, les versets 1 à 3, alors que des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. » Alors, juste en passant, se laver les mains, ce n'était pas juste on met un peu d'eau puis c'est terminé. C'était en fait un rituel hein, de pureté. Okay, vous compreniez bien. Hein. Donc Jésus répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» En fait, Jésus était en train d'indiquer aux pharisiens qu'il ne peut y avoir qu'une autorité. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est la tradition. On ne peut pas avoir deux autorités. Et un peu plus loin, dans le même passage, Jésus, qui vient de donner un exemple explicite aux pharisiens, leur dit ceci. « Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Quand la tradition devient la référence, la parole de Dieu est en quelque sorte annulé. C'est ce que Jésus dit dans Marc 15, verset 6. Il faut une référence, une autorité. Et cette autorité, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. Alors, toute la tradition n'est pas à rejeter, hein, comme nous le verrons dans un instant. Mais la tradition est sous l'autorité de l'Écriture. Et si l'Écriture pose un avis contraire, ben c'est la Bible qui a raison. C'est toujours la Bible qui a raison. Toujours, là on peut utiliser les absolus, toujours. C'est toujours la Bible qui a raison, qui fait autorité, car c'est la parole même de Dieu. Et c'est ce que les réformateurs ont martelé durant toute la réforme. Et si vous voyez la statue de Farel là, à Neuchâtel avec une Bible élevée, c'est parce que il souligne cette notion de la sola scriptura, la parole de Dieu qui est l'autorité suprême. Continuons nos scans. Hein. S suffisante, C pour clair, A pour autorité, N pour nécessaire. Là, nous avons lu le psaume 19 tout au début. Vous avez entendu le début du psaume où on parle de différentes choses, du soleil, de choses qui n'ont pas de parole et pourtant on les comprend, etc. Eh bien, cela indique une révélation générale. En fait, la création, c'est une révélation générale. On peut observer la création et comprendre qu'il y a un Dieu. Si on l'observe vraiment, on se rend compte que ce n'est pas possible, que c'est devenu par hasard, que, enfin, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a un Dieu. Mais est-ce qu'en observant la nature, vous pouvez savoir comment être sauvé? Est-ce qu'en observant la nature, vous pouvez savoir quelles sont les caractéristiques de Dieu autres que ce qu'on voit dans la nature? Donc, la notion de l'intelligence, on le voit, la sagesse, c'est vrai, mais il y a des éléments qu'on ne voit pas dans la nature. Est-ce qu'on peut connaître le message que Dieu veut nous transmettre par la nature, dans son ensemble? Non. Il nous faut une révélation particulière. Et la Bible, c'est comme une longue lettre que Dieu écrit aux hommes, progressivement, en leur donnant des exemples d'histoire de vie, des contre-exemples à ne pas imiter, des explications, et de tout ce dont nous avons besoin de savoir pour connaître Dieu et faire sa volonté. C'est la sola scriptura qui donne un sens à tout ce que nous faisons. C'est la sola scriptura qui donne un sens à tout ce que nous faisons, vivons et connaissons, qui révèle qui est Dieu et nous indique le salut. C'est la sola scriptura qui donne un sens à tout ce que nous faisons et vivons et connaissons, qui révèle qui est Dieu et nous indique le salut. Donc si on veut connaître le sens de nos vies, ce n'est pas en regardant la nature. Ça peut nous encourager, nous stimuler, c'est vrai, mais c'est en lisant la parole. Si on veut connaître Dieu lui-même, c'est en lisant la parole. Si on veut connaître le salut, c'est en lisant la parole. C'est l'Écriture seule qui est la révélation de Dieu, transmise aux saints une fois pour toutes, comme c'est écrit dans Jude 3. Voilà, nous allons chercher à répondre à la question « Pourquoi sola scriptura ? Pourquoi l'Écriture seule ?» Alors j'espère que nous allons retenir au moins deux choses. La première, c'est « Pourquoi sola scriptura ? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la réponse principale, en fait. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de nous retenir les caractéristiques de cette sola scriptura avec le scan, parce qu'elle est suffisante, claire, autorité et nécessaire. Pour terminer, nous allons brièvement répondre à une dernière question. Mais alors, comment pratiquer le sola scriptura? Eh bien, premièrement, il est important de comprendre que la Bible est un ensemble cohérent, une révélation progressive qui se complète. C'est pourquoi, avec le sola scriptura, il est important de dire également le tota scriptura. On aura fait pas mal de latin ce matin, mais bon, je traduis, donc ça va. Donc, avec l'écriture seule, nous avons l'écriture totale, complète. C'est ça, tota scriptura. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est autant la parole de Dieu que le Nouveau Testament. Chaque livre biblique amène sa pierre à l'édifice. La Bible est comme un corps bien organisé, chaque organe est précieux et important. Ça signifie qu'il ne faut pas seulement lire toujours les mêmes passages bibliques, mais la lire en entier. Parce que lorsque vous lisez un roman, vous lisez juste trois pages, toujours les mêmes là. Un roman que vous aimez bien. Mais non, on le lit en entier. Vous savez, si on lit que un ou deux passages, puis toujours les mêmes dans la Bible, c'est comme si on n'utilisait que un ou deux muscles. On n'irait pas loin si on n'utiliserait que un ou deux muscles. C'est juste énorme le nombre de muscles qu'on utilise. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Si on ne lit qu'un petit bout de passage, c'est comme si on n'utilisait qu'un muscle. Or, la question que j'aimerais vous poser, toute pratique, est-ce que vous avez une systématique pour lire toute la Bible? Parce qu'on doit s'aider parfois. C'est pas en ouvrant, puis voilà, je lis l'attaque, puis après le lendemain on ouvre. On ne va jamais lire toute la Bible, évidemment. Est-ce que vous avez une systématique? Alors, il existe des guides. On a le guide du pèlerin, par exemple, qui nous permet de lire toute la Bible en 7 ans. Ben voilà, pourquoi pas, ça permet de le faire. Vous pouvez le faire même en une année, il existe des plans de lecture sur une année. En fait, c'est un peu égal, le temps. Mais ce qui est important, c'est que vous la lisez complètement. Donc, je vous encourage au moins à avoir, par exemple, une liste de tous les livres de la Bible et vous cochez quand vous l'avez lu. Comme ça, après, ben, vous savez, une fois que vous avez lu tous les livres de la Bible. Et quand vous l'avez fait, ben, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, quand vous relisez, vous pouvez maintenant faire des liens avec d'autres passages que vous avez lus. Puisque la Bible, en fait, s'explique par elle-même. Comme on va le voir d'ici quelques minutes. Donc, ayant lu toute la Bible, on peut recommencer, petit à petit, comprendre les textes plus difficiles à l'aide de textes qui sont plus clairs. Donc, comment pratiquer la sola scriptura? Eh bien, en pratiquant la tota scriptura. Nous disons que la Bible est notre autorité ultime, donc nous la lisons dans son ensemble. Si on dit que la Bible, c'est notre autorité ultime, nous la lisons dans son ensemble. Deuxièmement, l'écriture seule ne veut pas dire lire et comprendre l'écriture tout seul. Certains appellent cela le solo scriptura. C'est le dernier latin, après j'arrête. Mais certains parlent du solo scriptura. Eh bien, non. Dans notre monde relativiste, chacun pense avoir sa propre vérité. On peut l'interpréter chacun, le texte à sa manière. C'est ton interprétation, j'ai la mienne. Vous avez déjà entendu ça? Donc vous êtes dans le même monde que moi. Et pourtant, il est écrit, vous l'avez devant vous, aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Cela signifie que ce n'est pas à chacun de trouver son interprétation, mais à tous de trouver l'interprétation biblique. C'est le cheminement inverse, en fait. La Bible s'explique par elle-même. Un texte plus difficile est éclairé par un texte plus facile. C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Donc, si jamais il y a des éléments que vous ne comprenez pas, eh bien, il faut chercher d'autres endroits dans la Bible, des éléments que vous comprenez, qui vont vous aider à la compréhension des textes plus difficiles, puisque la Bible se complète. Et cela se base sur un principe clair, c'est que Dieu ne se contredit jamais, car il est entièrement et totalement vérité. S'il se contredisait entre quelque chose de vrai et quelque chose de faux, c'est qu'il y aurait un mensonge en Dieu. Il n'y en a pas. Les contradictions apparentes sont donc des indicateurs de notre mauvaise compréhension, pas du fait que Dieu a un mensonge. C'est nous qui avons de la peine à le comprendre. Il ne faut pas chercher de l'erreur du côté de Dieu. Ça devrait simplement nous stimuler à chercher à comprendre la pensée de Dieu et pas la nôtre, puisque c'est une parole de Dieu. Et les confessions de foi, les catéchismes éprouvés, historiques, sont des outils utiles pour ne pas vivre le solo scriptura, la lecture de la Bible en solo. Attention, lorsque vous lisez un texte biblique, vous dites « Ah ben voilà, jamais personne n'a compris ce texte comme ça. » Ah, jamais, jamais. Bon là, vous devrez quand même un petit signal qui s'allume, quoi. Parce que si jamais personne n'a compris cela, alors soit c'est que vraiment Dieu voulait cacher ça jusqu'à maintenant, ou que le Saint-Esprit n'était pas actif durant 2000 ans, puis qu'il vient juste d'être actif à ce moment-là. Non, nous ne sommes pas dans cette solo scriptura. Ça, c'est justement ce que certains critiquent à ceux qui parlent de la sola scriptura, on va dire, ben voilà, après on est dans cette notion-là, on évacue toutes les traditions, tout ce que les commentateurs ont pu dire. C'est pas vrai. C'est que simplement tous ces commentateurs et toutes ces traditions sont soumis à la parole de Dieu. Et s'il y a une contradiction, c'est toujours la Bible qui a raison. On l'a vu tout à l'heure. Nous avons besoin des autres dans notre cheminement pour connaître la seule autorité suprême révélée, la sola scriptura. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas de trouver chacun notre interprétation, mais c'est de trouver l'interprétation biblique. Et nous pouvons le faire ensemble aussi. Nous terminerons cette partie qui nous a donné quelques pistes pour répondre à la question « Comment pratiquer la sola scriptura ?» Et j'espère vous avoir fait comprendre que nous pratiquons la sola scriptura avec deux, c'est nos deux termes latins, mais ça on se souvient. La tota scriptura, on lit la Bible en lisant en entier, mais pas solo scriptura, c'est-à-dire on ne lit pas la Bible en pensant que c'est que nous qui avons une interprétation. Mais nous cherchons à la comprendre de manière comme Dieu a voulu la transmettre, donc comme d'autres ont aussi pu le comprendre dans le passé, et qui correspond au reste de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma petite interprétation personnelle que je cherche, mais ce que Dieu a vraiment voulu dire. Vous comprenez? Bon, en conclusion, qu'allons-nous retenir? Pourquoi parler de la réforme? Vous vous rappelez? Pourquoi parler de la réforme? Parce que c'est un point de repère qui nous guide vers le centre de l'histoire de l'humanité. Pourquoi l'écriture seule? Pourquoi sola scriptura? Parce que c'est la parole de Dieu qui est scanne, suffisante, claire, autorité, nécessaire. Comment pratiquer l'écriture seule? Eh bien en considérant tous les livres bibliques comme étant la parole de Dieu, en utilisant l'analogie de la foi, c'est-à-dire en cherchant les textes plus explicites pour comprendre les textes plus difficiles. Vous savez, la fidélité à l'écriture est une marque de l'Église fidèle. Car il est écrit, l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas l'Église qui est la source de la vérité. Elle est la servante de la vérité, la colonne, l'appui de la vérité qui est la sola scriptura. Et c'est la Bible qui nous révèle le salut en Jésus-Christ. Nous ne le trouvons nulle part ailleurs. L'Écriture seule, sola scriptura, c'était le cri de la réforme. Est-ce aussi le nôtre ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance parce que tu es ce Dieu de la parole et tu es ce Dieu de l'histoire. Si aujourd'hui nous pouvons regarder en arrière 500 ans avant, c'est pour être redirigé encore 1500 ans avant, au centre de l'histoire de l'humanité. Seigneur, j'aimerais te prier de nous aider à saisir l'importance de la venue de Christ dans ce monde, l'importance de vivre cette réforme à toute époque qui pointe vers le centre de l'humanité, le centre de l'histoire de l'humanité. Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à avoir ce réflexe de pointer vers ce centre qui est Jésus-Christ, qui est celui qui est venu, qui a tout accompli, qui a vécu une vie parfaite, qui était l'humain parfait, qui était celui qui nous guide aussi vers toi, celui qui réconcilie avec toi, qui réconcilie les uns avec les autres, celui qui amène la rédemption, le rachat. Oh Seigneur, sois loué et béni. Et merci parce que tu nous l'as expliqué dans ta parole. Tu l'as annoncé bien avant déjà. Des centaines, des milliers d'années avant, tu l'avais déjà annoncé, tu l'as accompli. Non seulement tu l'as accompli, mais tu l'expliques encore dans cette partie du Nouveau Testament et nous te prions de nous aider à le creuser, à le comprendre, à le saisir. Et que ce soit, Seigneur, notre référence ultime. Tu vois combien dans ce monde on cherche à nous faire croire qu'il y a d'autres références, mais qui ne tiennent pas, qui sont faillibles, qui sont friables, qui ne sont pas solides. Ta parole est solide, ta parole a traversé les âges, et Seigneur, nous savons qu'elle résistera jusqu'à la fin, parce que tu l'as promis. Oh, j'aimerais te prier de nous donner cet amour pour ta parole, que nous puissions l'aimer, que nous puissions la transmettre, que nous puissions être ces personnes qui non pas se sentent supérieurs en ayant la parole, mais se sentent serviteurs en ayant la parole. Parce que nous sommes appelés à la transmettre, à la donner. Et cette richesse, Père, plus nous la donnons, plus nous en avons. Ce n'est pas logique, c'est divin. Oh, sois loué et béni, que cette parole brûle dans nos cœurs et que nous en soyons des témoins fidèles. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.